L'invention de Morel, deuxième partie. M'aidant d'une barre de fer qui servait à barricader la porte, dans un état croissant de lassitude, je perçais une ouverture. Une clarté céleste apparut. Je travaillais d'arrache-pied dans le même après-midi, j'étais à l'intérieur. Mon premier sentiment ne fut pas le regret de ne point y trouver de vivre, ni le soulagement de reconnaître une pompe à eau et une génératrice de lumière, mais bien plutôt un ravissement et une admiration sans bornes. Les murs, le plafond, le sol étaient en porcelaine azurée et tout, jusqu'à l'air même, dans cette pièce sans autre ouverture au jour que le soupirail haut placé et caché entre les branches d'un arbre, avait une diaphanité céleste et profonde que l'on trouve dans l'écume des cataractes. Bien que je n'entende pas grand-chose au moteur, je ne fus pas long à les mettre en marche. Quand l'eau de pluie vient à me manquer, je fais marcher la pompe. Tout cela m'a surpris. Tant en ce qui me concerne, qu'en ce qui concerne la simplicité et le bon état des machines. Je n'ignore pas qu'en cas de panne, je devrais compter seulement sur ma résignation. Je suis si inexpert que je n'ai pu encore découvrir la destination d'un certain nombre de moteurs verts qui se trouvent dans la même pièce, ni de ce cylindre à ailettes qui est dans la basse terre du sud, relié au souterrain par un tube de fer. S'il n'était si éloigné de la côte, je lui attribuerais une certaine relation avec les marées. Je pourrais imaginer qu'il sert à recharger les accumulateurs que doit avoir l'usine. À cause de mon incompétence, je me montre très économe. Je ne mets les moteurs en marche que quand c'est indispensable. Cependant, en une occasion, les lumières du musée ont brûlé toute la nuit. C'est lorsque, pour la première fois, j'ai fait des découvertes dans les souterrains. J'étais souffrant. J'espérais trouver quelque part dans le musée une armoire à médicaments. En haut, il n'y avait rien. Je descendis dans le souterrain et, cette nuit-là, je laissais de côté la maladie. J'oubliais que les horreurs que j'étais en train de vivre ne se rencontrent que dans les rêves. Je découvris une porte secrète, un escalier, un second souterrain. Je pénétrai dans une chambre polyédrique, pareille à ces abris anti-aériens que j'ai vus au cinéma. Aux murs recouverts de plaques de deux sortes, les unes d'un matériau semblable au liège, les autres de marbre, symétriquement disposées. Je fis un pas. Par des arcades de pierre, dans huit directions, je vis se répéter, comme dans des miroirs, huit fois la même chambre. Puis j'entendis des pas nombreux, terriblement nets, tout autour de moi, au-dessus, au-dessous, qui parcouraient le musée. J'avançais un peu plus. Les bruits s'éteignirent, comme dans un paysage de neige, comme dans les hauteurs glacées du Venezuela. Je montais l'escalier, c'était le silence. Le bruit solitaire de la mer, une immobilité traversée de fuites de mille pattes. J'eus peur d'une invasion de fantômes, une invasion de policiers étant moins vraisemblable. Je passai des heures, ou peut-être des minutes, derrière les rideaux, affolé à l'idée de la cachette que j'avais choisie. On pouvait me voir du dehors. Pour échapper à quelqu'un qui me menaçait de l'intérieur, il me faudrait ouvrir la fenêtre. Puis je me risquais à visiter soigneusement la maison. Mais mon inquiétude persistait. N'avais-je pas entendu, tout autour de moi, ces pas clairs qui se déplaçaient à différentes hauteurs? À l'aube, je descendis de nouveau dans le souterrain, les mêmes qui m'entourèrent, proches et lointains. Mais cette fois, j'en compris l'origine. Mal à mon aise, je continuais à parcourir le second souterrain, escorté d'une manière intermittente par la volée empressée des échos, multiplement seuls. J'ai vu 9 chambres pareilles. 5 autres sont dans un souterrain inférieur. On dirait des abris anti-aériens. Quels sont ces gens qui, vers 1924, ont construit cet édifice? Pourquoi l'ont-ils abandonné? il est étonnant que les constructeurs d'une maison si bien bâtie aient respecté le préjugé moderne contre les moulures, au point d'en avoir fait cet abri qui met à l'épreuve l'équilibre mental. Les échos d'un soupir font entendre des soupirs proches et lointains durant 2 ou 3 minutes. Où il n'y a pas d'écho, le silence est aussi horrible que ce poids qui, dans les rêves, vous empêche de fuir. Le lecteur attentif a pu retenir de mon rapport une énumération d'objets, de situations, de faits à tout le moins surprenants. Le dernier est l'apparition des actuels habitants de la colline. Peut-on établir une relation entre ces personnes et celles qui vécurent ici en 1924 ? Faut-il voir dans les touristes d'aujourd'hui les constructeurs du musée, de la chapelle, de la piscine ? Je ne me résous pas à croire que l'une de ces personnes ait interrompu une fois d'écouter Tifortu ou Valencia pour établir le projet de cette demeure infestée d'échos, sans doute, mais à l'épreuve des bombes. Dans les rochers, tous les soirs, une femme contemple le coucher du soleil. Elle a un foulard versicolore noué autour de la tête. Les mains jointes en serrant un genou, des soleils antérieurs à sa naissance ont dû dorer sa peau. Par les yeux, les cheveux noirs, le buste, elle ressemble à l'une de ces bohémiennes ou de ces espagnoles des plus détestables peintures. J'augmente avec ponctualité les pages de ce journal, au détriment de celles qui me feraient pardonner les années où mon ombre a demeuré sur la terre, défense devant les survivants et éloge de Malthus. Cependant, ce que j'écris aujourd'hui vaut comme une précaution. Je ne changerai rien de ces lignes. Malgré la faiblesse de mes convictions, il faut que je m'arrange avec mes connaissances actuelles. Ma sécurité exige que je renonce indéfiniment à aucune aide d'autrui. Je n'espère rien. Cela n'a rien d'horrible. Après m'y être résolu, j'ai recouvré la tranquillité. Mais cette femme m'a donné un espoir. Je dois craindre les espoirs. Chaque soir, elle contemple la tombée du jour. Moi, caché, je reste à la regarder. Hier et de nouveau aujourd'hui, j'ai découvert que mes jours et mes nuits s'écoulaient dans l'attente de cette heure. La femme, avec sa sensualité de gitane, son foulard bigarré un peu trop grand, me paraît ridicule. Cependant, je sens, peut-être un peu par le jeu, que si je pouvais être un instant regardé par elle, elle m'adresserait un instant la parole, afflueraient tout à la fois les secours que trouve l'homme en ses amis, sa fiancée et en ceux qui sont de son sang. Mon espoir est peut-être dû à ces pêcheurs et à ce joueur de tennis barbu. Je me suis aujourd'hui irrité de la rencontrer avec cette espèce de faux tennisman. Je ne suis pas jaloux, mais hier non plus je ne l'ai pas vu. Je me dirigeais vers les rochers lorsque ces pêcheurs m'ont empêché de continuer. Ils ne m'ont rien dit. J'ai fui avant d'être vu. J'ai essayé de les éviter en passant par le haut. Impossible. Il y avait là des amis qui le regardaient pêcher. Lorsque je fus de retour, le soleil s'était déjà couché. Les rochers demeurèrent les seuls témoins de la nuit. Peut-être préparais-je une sottise irrémédiable. Peut-être cette femme, attiédie par les soleils vespéraux, me livrera-t-elle à la police ? Je la calomnie, mais je n'oublie pas la menace de la loi. Ceux qui prononcent la condamnation, qui fixent le temps de votre peine, imposent des interdictions qui vous accrochent plus furieusement encore à votre liberté. Et voilà qu'à présent, envahi de saleté, de cheveux et d'une barbe que je ne puis extirper, quelque peu vieilli, je caresse l'espoir de la proximité bienfaisante de cette femme indubitablement belle. J'ai confiance que pour moi la difficulté la plus grande sera instantanée, triomphée de la première impression. Cette image trompeuse de moi-même ne l'emportera pas sur moi. En 15 jours, j'ai vu 3 grandes inondations. Hier, j'ai eu la chance de ne pas mourir noyé. L'eau a failli me surprendre. Me fiant aux marques de l'arbre, j'ai calculé la marée pour aujourd'hui. Si j'avais encore dormi à l'aube, j'étais mort. L'eau montait très rapidement, avec cette décision qu'elle montre une fois par semaine. Si grande est ma négligence que je ne sais plus maintenant à quoi attribuer ces surprises. À des erreurs de calcul ou à une altération passagère de la régularité des grandes marées? Si les marées ont changé leurs habitudes, la vie sur cette basse terre deviendra plus précaire encore. Je m'en accommoderai, cependant. J'ai survécu à tant d'adversités. J'ai vécu bien longtemps malade, perclus de douleurs, fiévreux, très occupé à ne pas mourir de faim, sans pouvoir écrire avec cette chère indignation que je dois aux hommes. À mon arrivée, j'ai trouvé quelques provisions dans le garde-manger du musée. Dans un four classique et surchauffé avec de la farine, du sel et de l'eau, j'ai préparé un pain mangeable. Bientôt, je mangeais la farine en poudre à même le sac, à grand renfort de gorgées d'eau. J'ai tout épuisé, jusqu'à quelques conserves de langue d'agneau avariées, jusqu'aux allumettes, à la consommation de 3 par jour. Combien plus évolués que nous furent les inventeurs du feu. J'ai travaillé péniblement des jours et des jours à la fabrication d'un piège. Quand il a fonctionné, j'ai pu manger des oiseaux sanglants et douceâtres. J'ai suivi la tradition des solitaires. J'ai mangé aussi des racines. La douleur, une lividité humide et terrifiante, des états cataleptiques qui ne m'ont laissé aucun souvenir. D'inoubliables cauchemars d'épouvante m'ont permis de reconnaître les plantes les plus vénéneuses. Je suis dans la gêne. Je n'ai pas d'outils. La région est malsaine, hostile. Pourtant, il y a quelques mois, ma vie actuelle m'aurait paru un inimaginable paradis. Les marées quotidiennes ne sont ni dangereuses ni ponctuelles. Parfois, elles soulèvent les branchages recouverts de feuilles sous lesquelles je m'étends pour dormir. Et l'eau me surprend dans une mer imprégnée de l'eau bourbeuse des marécages. Il me reste l'après-midi pour la chasse. Le matin, je suis dans l'eau jusqu'à la ceinture. Les mouvements vous pèsent comme si la partie immergée du corps était beaucoup plus grande. En revanche, il y a moins de gros lézards et de vipères. Les moustiques vous harcèlent toute la journée, toute l'année. Les outils sont dans le musée. Je voudrais avoir assez de courage pour entreprendre une expédition et les récupérer. Peut-être, n'est-ce pas indispensable ? Ces gens s'en iront. Peut-être ai-je eu des hallucinations. Le canot est resté hors d'atteinte sur la plage de l'Est. Ce que j'ai perdu là est peu de choses. Savoir que je ne suis pas prisonnier, que je ne puis quitter cette île, mais la chose est-elle vraiment possible? Je sais quel enfer en sert ce canot. Je suis venu de Rabol jusqu'ici. Je n'avais pas d'eau à boire, pas de chapeau. À la rame, la mer est interminable. L'insolation, la fatigue étaient plus fortes que mon corps. Elles m'infligèrent une maladie dévorante et des rêves qui n'en finissaient plus. Ma chance à présent est de savoir reconnaître les racines comestibles. J'ai réussi à ordonner si bien ma vie que je fais tous les travaux et qu'il me reste encore un peu de temps pour me reposer. Dans cet ample rythme de vie, je me sens libre, heureux.